Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour continuer notre exploration de la paléanthropologie de l'Asie. Nous avons vu donc l'historique des découvertes et l'histoire, ça compte énormément en science. Il faut toujours s'en préoccuper parce qu'il y a de nombreux biais dans la façon dont nous appréhendons la réalité des données qui sont liées à ce cheminement historique. Hein. Et surtout en paléanthropologie, où les données sont souvent discontinues dans le temps et dans l'espace. On va le voir particulièrement aujourd'hui avec cette conférence sur Homo erectus. Et la dernière fois, on a aussi un petit peu discuté de ces premiers peuplements. Et donc, ces premiers peuplements de l'Asie sont des peuplements que, dans l'état actuel des connaissances, on attribue à des Homo erectus anciens. Donc, d'une certaine façon, la paléanthropologie de l'Asie est plus simple que celle de l'Afrique. Et je vous rappelle ce schéma, cette distribution des taxons à travers le temps. Et vous voyez que, disons que jusqu'autour de 2 millions d'années, tout se passe en Afrique. Et à partir de 2 millions d'années, eh bien, on a des formes qu'on va trouver aussi en Eurasie. Cet Homo erectus, c'est le premier des trois grands acteurs qu'on va avoir l'occasion de discuter. Donc aujourd'hui, on va parler de lui. La prochaine fois, on va parler d'un groupe d'hommes fossiles qui est nouvellement apparu, si je peux dire, sur la scène paléanthropologique, encore qu'il a existé il y a quelques centaines de milliers d'années. Il s'agit des Denisoviens, groupe un peu mystérieux. Puis ensuite, on parlera de l'Homo sapiens, de l'homme véritable, de notre espèce, et de la façon dont cette espèce s'est répandue sur l'Asie, a remplacé des formes antérieures. En ce qui concerne Homo erectus, je voudrais insister sur quelques points avant de commencer l'examen des données asiatiques. D'abord, insister sur le fait que c'est une espèce qui a une longévité absolument extraordinaire. On a les formes les plus anciennes d'Homo erectus en Afrique il y a peut-être 2 millions d'années. On le trouve en dehors de... On trouve l'espèce en dehors d'Afrique il y a au moins 1,8 million d'années, peut-être même un petit peu plus si on en croit certains sites archéologique, on n'a pas d'ossements, mais on a des outils. Et vous allez voir que les derniers de ces Homo erectus, dans certains coins, j'allais dire recoins d'Asie, eh bien, on va les trouver peut-être jusque dans le Pléistocène supérieur, c'est-à-dire il y a moins de 130 000 ans. Et donc, ça fait une longévité de 1,8 million d'années, quelque chose comme ça. C'est une longévité qu'on ne connaît pas chez d'autres espèces d'hominines. Et cette grande longévité et cette dispersion sur une aire géographique immense hein, qui couvre les zones les plus chaudes de l'Eurasie et l'Afrique entraîne une très très grande diversité de ces Homo erectus et une diversité que l'on sous-estime probablement grandement. Juste pour vous donner un exemple, je vous montre ce diagramme qui exprime l'évolution de la taille de l'endocrâne, c'est-à-dire du contenu de la boîte crânienne, en première approximation la taille du cerveau, dans différents groupes d'hominines fossiles. Donc le passé est à gauche, le présent est à droite, avec en bleu les hommes actuels. Et vous voyez que cette augmentation de la taille du cerveau au cours de l'évolution des hominines, eh bien, c'est essentiellement le résultat d'une progression de ces ronds verts que vous voyez. Et ces ronds verts, eh bien, sont justement des Homo erectus. Et donc ça veut dire que entre 2 millions d'années et puis, disons, 3 ou 400 000 ans, eh bien, la taille de l'encéphale chez ces Homo erectus, elle est passée de valeurs qui étaient parfois en dessous de 600 millilitres jusqu'à des valeurs de plus du double, 1250, parfois même un petit peu plus. Et donc vous imaginez bien que ce changement bien affecte considérablement l'anatomie de ces formes et aussi leur comportement, parce qu'avec cette augmentation de la taille du cerveau, il y a des changements cognitifs qu'on a un peu de mal à appréhender. Il y a aussi des changements de taille, parce que la taille du cerveau et la taille du corps varient en même temps, plus ou moins. Et donc, on peut se poser la question de savoir si, dans le fond, on est fondé à garder tous ces Homo erectus dans une espèce. Je vous dis tout de suite que, pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé une solution pour reconnaître des entités qui soient vraiment clairement identifiées, encore que, vous allez voir, qu'entre l'Afrique et l'Asie, la question se pose. Il y a un autre point, alors, qui touche à l'histoire. Je reviens à cet aspect historique, hein, comment l'histoire peut affecter notre façon de voir l'évolution humaine. C'est la façon dont l'espèce Homo erectus a été définie. Je vous ai parlé d'Homo erectus dans des cours précédents, au cours des dernières années, surtout dans le contexte africain de l'apparition des premiers homos et de l'apparition des comportements humains, en particulier des comportements de prédation. Et donc c'est à partir de l'Afrique que ces formes très anciennes se sont répandues, disons, en dessous de 40 degrés de latitude nord, quelque chose comme ça, depuis le Caucase jusqu'à l'Indonésie et la Chine. Mais du point de vue historique, les premiers Homo erectus que l'on a trouvés, eh bien, ce ne sont pas les premiers Homo erectus qui ont existé ici en Afrique. Vous vous souvenez que la première découverte d'un Homo erectus, en tout cas qui a été plus tard appelé Homo erectus, qui au départ a été appelé Pithecanthropus erectus, on la doit à cet anatomiste néerlandais, Eugène Dubois, qui, après avoir travaillé à Sumatra, a travaillé à Java, avec des présupposés qui étaient assez discutables, mais en tout cas, avec des idées fausses, il a obtenu des résultats tout à fait extraordinaires, quelque chose à méditer en science. Et donc, cet anatomiste très enthousiaste, eh bien, il a découvert sur les rives de la rivière Solo, dans le centre de Java, dans un endroit qui s'appelle Trinil, ces restes qui sont les restes de ce premier Homo erectus découvert, ce Pithecanthropus erectus. Une calotte crânienne, très curieuse, on va y revenir, un fémur qui, lui, par contre, ressemble énormément à un fémur d'homme actuel, au point qu'on s'est souvent demandé si ça n'était pas un fémur d'Homo sapiens. Cette image ne montre pas, d'ailleurs, d'autres fémurs qui ont été trouvés dans le site de Trinil et pour lequel le même genre de question s'est posé. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais des dents, des molaires supérieurs, on va en dire quelques mots tout à l'heure. Donc ça, c'était en 1891, la découverte, la publication 1894. Et dans le fond, c'est après cette découverte que la recherche des Homo erectus va se développer en Asie, en Indonésie, il va y avoir d'autres recherches, en Chine, je vous en ai déjà parlé. Pendant ce temps-là, en Afrique, en Afrique, à la fin du XIXe siècle, il n'y a pas de paléoanthropologie. Il va falloir attendre le XXe siècle pour qu'on commence à trouver des fossiles vraiment très intéressants. En tout cas, en ce qui concerne Homo erectus, et encore une fois, l'Afrique, c'est le continent sur lequel Homo erectus est apparu, eh bien, il va falloir attendre 1960 pour qu'on trouve quelque chose qu'on va attribuer de façon assez sûre à cet Homo erectus. Donc, vous voyez qu'il se passe près de 80 ans entre la découverte des Homo erectus en Indonésie et en Chine et la découverte de l'espèce en Afrique. Donc ce crâne très spectaculaire qui vient d'un gisement Tanzanie, qui s'appelle les gorges d'Olduvai, a été découvert par la famille Leakey, Louis Leakey. C'est un crâne extrêmement robuste, très, très impressionnant. Vous voyez, avec ce torus susorbitaire très puissant, c'est une pièce assez, assez importante en taille. On lui a donné au début un petit peu plus d'un million d'années. Maintenant, on a tendance à vieillir un peu ce fossile. On a avancé des âges jusqu'à 1,4 million d'années pour une capacité crânienne d'environ 1000 millilitres. Et donc, pendant ces 80 ans... Alors, simplement, avant de poursuivre avec les pièces asiatiques, en réalité, avant 1960, on avait trouvé en Afrique du Nord, dans les années 50, quelques fossiles dans le gisement de ce qu'on appelait autrefois Ternifine, qui s'appelle maintenant Tirenif, près de pas très loin de Mostaganem en Algérie. On avait trouvé des mandibules et un pariétal qui, par la suite, ont été aussi rapprochés d'Homo erectus, encore que ça pourrait être autre chose. Et donc, pendant ces 80 ans qui séparent les découvertes de Java et de Chine, et puis les premières études en Afrique, eh bien, c'est essentiellement sur ce matériel indonésien et chinois qu'on va définir l'espèce. Et donc, il y a des travaux très importants. J'ai parlé de ceux de Franz Weidenreich, de ceux de Ralph von Königswald et d'autres, qui ont défini, alors d'abord, des genres qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, le synanthrope de Zougoudien, le pithécanthrope de Java, tout ça étant fusionné dans Homo erectus au milieu du XXe siècle. Et donc, ces chercheurs, ils ont produit ce qu'on appelle une diagnose, c'est-à-dire une définition de ces espèces avec tout un cortège de caractères qu'on va rapidement voir maintenant. J'insiste là-dessus parce que, dans le fond, vous voyez qu'on a défini l'espèce sur des formes qui sont des formes plutôt les plus récentes et, en plus de ça, des formes qui sont, dans le fond, je dirais, marginales du point de vue de la distribution géographique de l'espèce. Si vous imaginez ces Homo erectus vivant depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Chine, voilà, on est allé en Indonésie et en Chine pour définir quelque chose qui avait une très, très grande... distribution géographique, une distribution très étendue. Et vous allez voir que ça a posé un certain nombre de problèmes ensuite pour identifier l'espèce, notamment en Afrique, parce que eh bien, les caractères qu'on a utilisés dans cette diagnose, eh bien, on ne les a pas retrouvés toujours sur les formes les plus anciennes et sur les formes les plus éloignées de l'Indonésie et de la Chine. Et vous voyez que ça rejoint ce débat, enfin cette préoccupation de savoir est-ce que, dans le fond, tous les Homo erectus sont bien des Homo erectus. Ce que je vous propose, avant de continuer cet exposé, c'est quand même peut-être de regarder ces caractères qui ont servi à la définition d'Homo erectus. Et bien, tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec la calotte crânienne découverte par Dubois à Trinil. Alors, c'est un vestige qui est à la fois spectaculaire, émouvant, je dirais, à tenir entre ses mains pour des raisons historiques, mais en même temps, c'est un fossile qui n'est pas très complet. Vous voyez, c'est simplement une calotte crânienne, c'est-à-dire le dessus du crâne, de la voûte crânienne. Mais évidemment, dès l'époque de sa découverte, Dubois lui-même et les autres ont bien vu que ça n'était pas un homme comme les autres. Et d'ailleurs, beaucoup de contemporains de Dubois ne croyaient pas qu'il s'agissait d'un homme. Ils pensaient que c'était plutôt un primate un petit peu bizarre. Alors, cette partie de boîte crânienne quand on a essayé d'évaluer la taille du cerveau qu'elle pouvait contenir, et c'était quelque chose qui intéressait beaucoup Dubois. Hein. Dubois, quand il a été confronté à, je dirais, à la résistance de la communauté scientifique de son époque, il a eu tendance, après quelques années d'amertume, il a eu tendance à se détourner de son pithécanthrope, et il s'est beaucoup intéressé à la paléoneurologie, c'est-à-dire à l'étude du cerveau et de son évolution. Donc Dubois s'intéressait beaucoup à la question, et donc dès son époque, on avait une évaluation d'à peu près 700 millilitres ou un petit peu plus, ce qui était évidemment très peu comparé à la taille d'un cerveau actuel qui fait à peu près le double. Hein. Donc les valeurs actuelles tournent autour de 1350, quelque chose comme ça, en moyenne, avec une grande variation quand même. Donc, petite taille de l'encéphale, et puis une forme tout à fait particulière, une voûte qui est très basse, un os frontal qui est complètement aplati, hein, qui ne présente pas un front redressé comme ce que l'on observe chez un homme actuel. En avant de ce frontal fuyant, un bourrelet susorbitaire qui est une véritable visière osseuse, hein, au-dessus des orbites, très impressionnante, qui a une forme presque rectiligne. Ce bourrelet susorbitaire, quand on le regarde en vue supérieure, hein, depuis le sommet du crâne, vous voyez qu'il est séparé quand même de l'écaille de l'os frontal par un sillon, qu'on appelle le sillon supratoral. Et puis surtout, il est séparé du reste de la boîte crânienne par deux espèces d'encoches de chaque côté, ce qu'on appelle une constriction post-orbitaire, c'est-à-dire que l'os frontal, en arrière de ce bourrelet, se rétrécit considérablement. Donc ce sont des formes qui ont un frontal qui est beaucoup plus étroit que l'os frontal qu'on pourrait trouver chez un homo sapiens ou chez un homme de Néandertal, par exemple. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la boîte crânienne, eh bien, les lobes frontaux sont aussi assez étroits comparés à ce qu'on trouve chez des formes plus anciennes. Sur l'arrière du crâne, on a aussi une morphologie qui est tout à fait curieuse, avec une angulation très marquée de l'os occipital. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'os occipital ici, qui est la région sur laquelle les muscles de la nuque viennent s'insérer. On appelle ça le plan nucal. Et puis, au-dessus, un bout d'os occipital qui correspond au début de la voûte crânienne, disons, non couverte des muscles de la nuque. Et vous voyez que ces deux parties forment un angle très net. Et pour terminer, on observe sur ce crâne, on va le voir mieux sur un autre spécimen, tout un système de bourrelets osseux assez développé et qui n'est pas présent chez l'homme actuel. Voilà un autre fossile découvert à Java par von Koenigswald. Donc c'est un des premiers fossiles découverts dans ce fameux gisement de Saint-Girons. Il ressemble beaucoup, hein, au point de vue taille, morphologie, à la calotte crânienne de Trinil, celle de Dubois. Je vous le montre parce qu'on voit un petit peu mieux ces bourrelets qui sont présents un petit peu partout sur le crâne. Alors, dans la région de l'os occipital, entre ce plan nucal et puis cette partie de la voûte crânienne, eh bien, donc ce qui marque cette angulation, c'est un bourrelet qui est un bourrelet transverse, hein, qui va en gros d'une oreille à l'autre, hein, en arrière du crâne, qu'on appelle le torus occipital transverse. Vous voyez, ça forme une espèce d'épaississement. En réalité, si on fait un scanner du crâne, ou si l'os est cassé, on se rend compte qu'à cet endroit-là, eh bien, on a un épaississement de la table externe osseuse de l'os, c'est-à-dire la partie compacte de l'os crânien, eh bien, se trouve épaissi et forme ce bourrelet. Ce bourrelet, Il se poursuit plus ou moins jusque dans la région du méa auditif, à l'angle du pariétal, à l'angle postéro-inférieur du pariétal. On a un autre torus qu'on appelle le torus angularis, c'est-à-dire le bourrelet de l'angle du pariétal, qui poursuit plus ou moins ce torus occipital transverse. Et puis, autour du méa auditif, on a un système de bourrelet qui passe au-dessus du méa auditif, qui vient aussi le long de la mastoïde, donc tout un système de crêtes. Ça, ce sont des caractères qui sont des caractères tout à fait particuliers à ces Homo erectus et qui peuvent être très développés, même s'ils sont variables d'un individu à l'autre. Autre caractère tout à fait particulier de ces Homo erectus, quand on regarde le crâne de derrière, donc ça, c'est une vue justement de cet occipital avec ce bourrelet occipital transverse, ce plan nucal aplati est très, très grand et angulé par rapport à la partie supérieure de l'os occipital. Donc, quand on regarde le crâne en vue postérieure, vous voyez que le crâne a une forme pentagonale. Hein ? Alors, il a une forme pentagonale parce que au sommet du crâne, eh bien, on a une espèce de carène qui peut se développer uniquement dans la région pariétale, mais souvent qui se prolonge sur l'os frontal, hein, donc une angulation en quelque sorte de longitudinale de la forme du crâne. Et puis des faces latérales du crâne qui sont aplaties, mais qui divergent vers le bas. Hein. Et donc quand on regarde un crâne d'Homo erectus depuis l'arrière, eh bien, la largeur maximum du crâne se trouve vers la base du crâne, et généralement justement sur ces bourrelets qu'on trouve autour du méa auditif externe. Alors cette forme pentagonale, c'est la forme qu'on trouve chez l'Homo sapiens, chez l'homme actuel, sauf que l'Homo sapiens, lui, il a une forme pentagonale beaucoup plus élevée, il a un cerveau qui est beaucoup plus globulaire, beaucoup plus développé verticalement et surtout des bosses pariétales qui sont beaucoup plus saillantes. Et donc on a une forme pentagonale, mais qui est une forme pentagonale où la largeur maximum ne se trouve pas à la base du crâne, mais se trouve en position beaucoup plus élevée. Alors on oppose ces formes en parlant ici de forme en tente et ici de forme en maison. Pour se représenter un petit peu ce que ça peut être. Alors je vous fais grâce de la forme en bombe qui est celle des Néandertaliens, qui est complètement différente. Ce qui est intéressant quand on considère cette morphologie chez les Homo erectus, c'est que en fonction de l'âge de ces Homo erectus, on va trouver des formes en tente. Plus ou moins élevés, hein, des tentes qui deviennent de plus en plus comme des maisons, en fait. Hein. Et ici, on a, par exemple, deux Homo erectus, hein, de Zougoudiane, et puis un Homo erectus tardif d'Indonésie. Vous voyez qu'il y a une élévation de cette forme, et évidemment, c'est lié à cette augmentation de la taille de l'encéphale dont on a déjà parlé. D'une façon générale, les processus mastoïdiens, hein, ces processus mastoïdiens, c'est cette chose dure qui est juste derrière aux oreilles, là, une espèce de petit mamelon qui pointe vers le bas, sont plus développés chez les hommes que chez les femmes et sur lesquels viennent s'insérer des muscles du cou. Ces processus sont généralement peu développés chez ces Homo erectus. Alors, passons à la face. Pour ça, j'ai choisi de vous montrer cette reconstitution d'un crâne d'Homo erectus de Zougoudiane, le gisement chinois dont on a beaucoup parlé déjà. Alors, malheureusement, on n'a pas trouvé de crâne comme celui-là à Zougoudiane. Hein. C'est un crâne composite, si je peux dire, qui est fait d'éléments disparates. À Zougoudiane, on a toute une série de calottes crâniennes plus ou moins complètes, et puis on a des fragments de face qui ont été aussi découverts, puis des mandibules, bien sûr. Alors, quand on regarde cette face des Homo erectus, c'est une face qui est prognate. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est située relativement en avant par rapport à la boîte crânienne. Donc, c'est ce que ça veut dire, prognate. Hein. C'est juste que la face est projetée en avant. Cela étant dit, c'est une face qui est relativement plate et donc qui est différente de la face prognate des Néandertaliens, par exemple, qui est une face dont c'est surtout la partie moyenne, partie centrale, qui est projetée en avant. Il y a une saillie des arcades dentaires par rapport à la face, c'est ce qu'on appelle du prognatisme alvéolaire. Et puis aussi une saillie des os nasaux. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que par rapport aux formes d'hominines plus anciennes que l'on connaît, c'est un caractère qui démontre que ces Homo erectus, ils ont un nez qui ressemble un peu à notre nez à nous. Hein. Donc, ils ont une face plus humaine que certaines formes beaucoup plus anciennes. On connaît pas mal de mandibules d'Homo erectus à Zougoudienne ou ailleurs à Java. Elles ont des caractères assez, j'allais dire, constants. Sont des mandibules qui sont généralement très robustes. C'est lié en partie à la, j'allais dire, à la taille de la denture, hein, une denture qui est quand même plus robuste que la denture de la plupart des hommes actuels, avec des molaires qui sont de grande taille, qui sont en série croissante depuis la première jusqu'à la troisième. Vous voyez aussi que ce sont des mandibules sur lesquelles la hauteur de l'os ne varie pas beaucoup d'avant en arrière. Donc on a un bord inférieur et un bord supérieur de la mandibule qui sont presque parallèles. Les racines des dents sont assez grandes, ce qui explique que le foramen nourricier qui se trouve sur la mandibule, qu'on appelle le trou mandibulaire, eh bien, se trouve en position relativement inférieure. Voilà d'autres vues de cette reconstitution de Homo erectus de Zougoudienne. Cette face, qui est une face, bon, évidemment, qui nous paraît très primitive, surtout à cause de ce bourrelet susorbitaire, il faut bien comprendre que c'est une face qui, en fait, est assez proche de notre face à nous. Hein. La face de l'homme que l'on dit moderne, en fait, c'est une face qui est relativement primitive comparée aux faces qu'on va observer chez d'autres hominines fossiles du Pléistocène moyen, en particulier les ancêtres des Néandertaliens ou les Néandertaliens. Donc, de ce point de vue, les hommes actuels ont conservé en fait une face qui ressemble beaucoup à la face des Homo erectus, c'est-à-dire encore une fois une face qui est relativement aplatie, avec une concavité marquée entre la partie zygomatique de la face et puis la partie maxillaire. Il y a chez les Homo erectus en Asie des variations assez considérables de la taille et de la forme de ce torus susorbitaire sur lequel j'ai beaucoup insisté. Et on a ici sur ces formes de Zougoudienne, on a une forme qui est en double arche au-dessus de chaque orbite, qui est un petit peu amoindrie sur les côtés, alors que vous verrez sur certaines formes de Java, on a un torus susorbitaire qui est beaucoup plus puissant, ou même en Chine chez des formes plus anciennes que ça. Donc, tous ces caractères, alors il y en a d'autres, il y a des caractères dentaires, on pourrait passer plusieurs cours à détailler toutes ces... Il y a beaucoup d'os aujourd'hui, je vous préviens. Hein. On pourrait détailler tous ces caractères. La question donc qui s'est posée, une fois qu'on a bénéficié du travail de ces anatomistes formidables, hein, comme Weidenreich, ben, ça a été d'appliquer, dans le fond, ces diagnoses à d'autres fossiles. Et là, c'est là que les problèmes ont commencé à se poser, en particulier quand on a commencé à trouver des fossiles africains qu'on a attribués à Homo erectus. Et alors pourquoi ? Eh ben, je vous ai expliqué que d'abord, il y avait eu beaucoup de temps entre les découvertes asiatiques et les premières découvertes africaines. Et puis, surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, dans le fond, en Afrique, ce qui est le mieux documenté dans le registre fossile, eh bien, en tout cas, pour ce qu'il s'agit d'Homo erectus, sont des Homo erectus relativement anciens. Et vous verrez, tout à l'heure, c'est assez compréhensible, parce que, dans le fond, à l'époque où on a des Homo erectus beaucoup plus récents en Asie, eh bien, il se passe autre chose en Afrique. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'a pas des Homo erectus récents en Afrique. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il était assez difficile, dans le fond, d'appliquer cette diagnose d'Homo erectus aux formes asiatiques, aux formes africaines, excusez-moi. Et donc, en 1975, il y a deux chercheurs, Groves et Marzac, qui se sont emparés du problème, si je peux dire, en créant un nouveau terme, un terme que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est le terme d'Homo ergaster. Alors, ce terme d'Homo ergaster, il faut bien comprendre qu'il a été créé, il a été forgé en s'appuyant sur un fossile type. Et ce fossile type, ça n'est pas un crâne, c'est une mandibule. Hein. C'est cette mandibule, qui est la mandibule 992 découverte à l'Est Rodolphe, qui est une mandibule qui a 1,5 million d'années, donc qui est plus ancienne que la plupart des fossiles dont on vient de parler. Alors, elle présente des caractères qui sont des caractères qu'on va retrouver chez les Homo erectus asiatiques. En particulier, on a, vous voyez, une forme de l'arcade dentaire qui est assez caractéristique des Homo erectus, qui est une forme d'arcade assez allongée. Alors, elle n'est pas vraiment en U, mais enfin, disons qu'elle est beaucoup plus profonde que ce qu'on va trouver chez d'autres formes pléistocènes, comme les Homo sapiens anciens ou les Homo néandertalensis. Donc ça, c'est un caractère, j'allais dire, générique des Homo erectus. Mais quand on regarde dans le détail, il y a des petites différences avec ce qu'on trouve habituellement en Chine ou à Java. Et donc, ces chercheurs ont proposé de créer un terme nouveau. Alors, ces chercheurs, ils appartiennent au camp de ce que l'on appelle les splitters, hein, dans le jargon des paléanthropologues, c'est-à-dire des gens qui ont tendance à diviser au maximum les taxons en tout un tas de groupes et de nomenclatures, en opposition à ceux qui ont, au contraire, tendance à regrouper beaucoup de choses sous le même terme. Toujours est-il que ce terme d'Homo ergaster a connu un certain succès. Un chercheur comme Bernard Wood, dont on a parlé déjà plusieurs fois, eh bien, dans le fond, a tiré argument du fait que quand on regarde les quelques crânes d'Homo erectus africains, appelons-les comme ça, eh bien, on se rend compte qu'ils n'ont pas un certain nombre des caractères dérivés, des caractères propres aux Homo erectus tels qu'ils ont été définis en Asie. En particulier, alors là, ça ne se voit pas sur ces photos, mais quand on regarde la morphologie occipitale, on n'a pas souvent des torus occipitaux transverses aussi bien définis, des torus angulaires bien saillants, une forme de l'occipital qui est bien celle qu'on a chez les Homo erectus classiques. Enfin, je vous fais grâce de tout un tas de détails à propos des carènes sagittales et des formes des torus susorbitaires. Et donc, des gens comme Bernard Wood ont dit, ben, écoutez, c'est pas compliqué, on va utiliser ce terme d'Homo ergaster créé par Marchak et par Groves et Marzac, et on va l'appliquer pas seulement à des mandibules, mais aussi à des crânes. Et donc, c'est comme ça qu'on a graduellement glissé vers une division entre Homo erectus sensu stricto, un groupe qui serait uniquement asiatique, et puis Homo ergaster, qui serait un groupe africain plus ancien. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une forme de reflux un petit peu de cette division. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez voir que, d'abord, on a trouvé des choses en Asie, même si c'est dans la proche Asie par rapport à l'Afrique, qui sont beaucoup plus, qui sont différentes de la définition classique des Homo erectus asiatiques. Et puis, on a de plus en plus l'impression qu'en fait, tout ça forme un continuum, alors évidemment avec des formes primitives et puis des formes beaucoup plus récentes, mais que c'est plutôt ça qu'une vraie division géographique, même s'il y a des divisions régionales. Et donc, je reviens à cet argument que je développais il y a quelques minutes. En fait, si on regarde... Alors là, on voit juste le dernier million d'années, hein, mais imaginez qu'avant ça, il y a un autre million d'années pendant lequel il y a des Homo erectus, il y a des Homo erectus, alors au sens large, on les appelle Homo ergaster si on a envie, ou on les appelle Homo erectus au sens large, mais donc on a ces Homo erectus qui existent depuis peut-être 2 millions d'années, en Afrique et en Eurasie, et puis au cours du dernier million d'années, eh bien, ce qui se passe, c'est que en Asie, on continue à avoir des Homo erectus, hein, ce sont ces barres bleues, ou des formes qui en dérivent plus ou moins. Hein. On aura l'occasion d'en reparler dans la suite du cours. Et j'étais assez conservateur, là, vous voyez, j'ai arrêté cette grosse barre bleue vers un peu moins de 300 000 ans. En réalité, si j'avais été plus audacieux, je l'aurais poursuivi même au-delà de ce pointillé, hein, jusqu'à 100 000 ans. Il y a des dates qui ont été proposées pour les derniers Homo erectus asiatiques qui sont des dates très, très récentes. Et vous voyez que pendant ce temps-là, dans l'ouest du monde de l'époque, c'est-à-dire en Afrique et en Europe, eh bien, il se passe autre chose. On n'a plus d'Homo erectus. On a les ancêtres des Homo sapiens et les ancêtres des Néandertaliens et de ces fameux Denisoviens dont on va parler la prochaine fois, qui émergent, disons, il y a 700 ou 600 000 ans, et donc sont des formes à grand cerveau qui sont assez différentes des Homo erectus asiatiques. Et dans le fond, le malheur a été qu'on ait défini Homo erectus sur ces formes terminales, mais voilà, je pense qu'il faut juste être bien conscient du problème, mais ça n'empêche pas quand même que ces formes terminales eh bien, s'enracinent dans des formes plus anciennes qui, elles, sont bien présentes en Afrique. Donc, pour revenir à l'Asie, vous allez voir qu'à propos d'Homo erectus, il se pose tout un tas de questions qu'on a déjà d'ailleurs un petit peu évoquées hein, dans le cours précédent et qu'on va évoquer encore dans les cours suivants parce qu'elles sont des questions irrésolues. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'on va discuter, même de formes plus récentes, eh bien, on va ressusciter, si je peux dire, certains de ces questionnements. Et en particulier, ces deux premières questions qui sont quel est en fait, l'âge des véritables premiers peuplements de l'Asie ? Et une question subsidiaire qui est liée à celle-là, qui est est-ce qu'en Asie, il n'aurait pas existé quelque chose de plus ancien, de plus primitif, de différent des Homo erectus. En gros, la question, c'est, on a en Afrique des Homo erectus à partir de 2 millions d'années. Si en Asie, on a des traces de l'homme avant 2 millions d'années, ben, qui a fabriqué ces outillages qu'on peut trouver dans certains coins d'Asie ? Et c'est une question qui est difficile à résoudre, surtout en raison des incertitudes sur la datation de certains sites et puis aussi sur la possibilité qu'on a de trouver des fossiles qui permettraient de remplacer cette case vide, si je peux dire. Vous verrez aussi que quand on parlera de formes plus récentes, en particulier ces formes naines comme celles qu'on trouve dans l'île de Florès, bien, on va se poser la question de savoir si par hasard leurs ancêtres, ça ne serait pas autre chose que des Homo erectus. Je vous dis tout de suite que pour l'instant, on n'a pas trouvé autre chose, donc ça reste quand même assez spéculatif. Ensuite, vous allez voir que ces Homo erectus, ils sont très variables dans leur anatomie, dans leur aspect, dans leur taille, etc. Et donc, en Asie même, on s'est posé la question de savoir si on n'avait pas autre chose que des Homo erectus qui avaient été attribués à des Homo erectus. Et ça, c'est lié à des incertitudes sur l'identification des fossiles. Donc, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas, par hasard, des fossiles qui sont glissés dans nos Homo erectus qui n'en seraient pas ? Est-ce que ces Homo erectus forment une entité homogène ? Alors là, vous allez voir qu'on a des différences régionales, mais en même temps, il faut bien garder en tête que, dans le fond, notre documentation, elle est extrêmement biaisée sur le plan géographique. C'est-à-dire qu'on parle de l'Asie, mais en réalité, tous les fossiles que je vais vous montrer ou que je vous ai déjà montrés sont des fossiles qui viennent en fait de deux régions bien particulières qui sont l'Indonésie. Et quand on dit l'Indonésie, c'est l'île de Java, hein. C'est pas l'Indonésie, c'est l'île de Java. Et puis la Chine, voilà. Et le reste, pour l'instant, on attend les Homo erectus dans les autres régions d'Asie. Il y en a eu certainement, mais on ne les a pas. Donc, quand on parle de différences régionales, eh ben, en fait, c'est des différences entre la Chine et l'île de Java, c'est tout. Avec une exception pour les plus anciens qui ont été découverts dans le Caucase. Et puis, enfin, une dernière question qui se pose à propos de ces Homo erectus. Je vous ai fait part de mes hésitations sur la taille que je devais donner à cette branche bleue d'Homo erectus qui monte vers nous depuis le passé. Quand les derniers Homo erectus ont-ils disparu ? On aimerait bien avoir des dates précises. Et dernier point, quelles sont les relations possibles entre ces Homo erectus et puis des populations actuelles ? Alors, on va, je vous ai promis beaucoup d'os, hein, donc on va commencer. Je vais vous montrer des fossiles. Hein. Vous êtes là pour ça, après tout. Hein. Et plutôt que de vous montrer ça d'un point de vue purement régional, je préférais plutôt vous montrer ça d'un point de vue chronologique. Parce que vous verrez que finalement, il y a plus de ressemblances entre des formes anciennes de différentes régions et puis des formes récentes de différentes régions que localement entre des formes anciennes ou récentes. Alors, les formes les plus anciennes, eh bien, on revient toujours à ce fameux site de Dmanisi, en Géorgie, qui est un site tout à fait extraordinaire. Je vous rappelle qu'on a là un site qui est extrêmement bien daté. Hein. C'est un site qui est établi sur une coulée de basalte, qui, elle, est datée sans aucun problème. Il y a des dépôts qui la recouvrent. Alors, ce sont des dépôts assez compliqués parce que vous voyez qu'il y a des tas de cavités qui sont remplies par des sédiments plus récents. Mais en combinant datation et paléomagnétisme, on est arrivé quand même à des datations très, très sûres de ce site. Et c'est quand même quelque chose de formidable parce que vous allez voir que c'est à peu près le seul site d'Homo erectus pour lequel on ait une date aussi précise en Asie. Et c'est d'autant plus favorable que c'est aussi un des sites les plus riches avec des restes humains dont on a déjà parlé, qui sont à la fois très bien conservés et très curieux, très intrigants à cause de leur anatomie. Donc là, on est très très loin, à la fois dans le temps et dans l'espace, de la définition de nos Homo erectus fondée sur les spécimens de Java et les spécimens de Chine. On est juste après la sortie d'Afrique de ces formes-là. Et de fait, on a été quand même assez embarrassé. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si on devait vraiment appeler Homo erectus ces formes de Dmanisi. Je vous ai dit tout à l'heure que la capacité crânienne des Homo erectus, elle variait en gros entre 600 ou 700 et 1200 millilitres. Ben là, on a des crânes qui, pour certains, sont en dessous de 600. Et en particulier, le dernier crâne qui a été découvert à Dmanisi, si je peux dire, a flanqué un sacré coup de pied dans la fourmilière, hein, parce qu'il était vraiment discordant même par rapport aux autres spécimens qui avaient déjà été décrits. on a imaginé qu'il y avait peut-être même deux espèces humaines différentes dans le site, ce qui est, je pense, très, très improbable. Non, ce qui est presque certain, c'est qu'en fait, on a une population avec une très grande variabilité, un très grand dimorphisme sexuel. Donc, malheureusement, on avait donné des petits rubans roses et des petits rubans bleus au crâne qu'on avait découvert avant celui-là. Et voilà, celui-là, c'est le bleu. Et il est assez différent des autres. Il a une face qui est très, très longue, comme des Homo erectus assez récents. Très grande robustesse du système masticateur, une mandibule absolument énorme et une capacité crânienne qui fait environ 550 millilitres. C'est-à-dire, on n'est pas très loin de ce qu'on a chez les Australopithèques. Hein, on est à peine au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très surprenant. Alors, il y a d'autres aspects de ces fossiles de Dmanisi qui sont étonnants, hein, en particulier... Il y a un des crânes qui a été découvert, celui-là, qui est le crâne D3444. Et ce crâne D3444, qui est associé à une mandibule, vous voyez que c'est un crâne d'un adulte assez âgé qui a perdu absolument toutes ses dents. Et ça aussi, ça a plongé beaucoup de gens dans la perplexité parce qu'on s'est demandé comment cet individu avait survécu, dans le fond, et donc ça a amené tout un tas de spéculations sur une forme de soutien par le reste du groupe, en tout cas une aide pour se nourrir avec des nourritures qui soient assimilables pour quelqu'un qui n'a plus de dents. Donc tout d'un coup, malgré le caractère très primitif de ces formes, dont on a hésité même à savoir s'il fallait les appeler Homo erectus ou Homo habilis, hein, une complexité comportementale quand même s'est fait jour dans cette description. Alors, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup à propos de Dmanisi, et je voulais vous en dire un mot, c'est qu'à Dmanisi, il n'y a pas que des crânes, il n'y a pas que des mandibules, il y a aussi des squelettes, il y a aussi des os post-crâniens, hein, des os du corps. Alors, vous vous souvenez qu'en Afrique, on a un Homo erectus pour lequel on a un squelette complet, enfin presque complet, c'est ce fameux adolescent de Nariokotome qui a environ 1,5 million d'années. Et donc là, on a pu se faire une image assez complète de ce qu'était un Homo erectus ancien. Un grand gaillard, il est pas si grand que ça, hein, lui, parce qu'il est à peu près de ma taille, mais comme il avait que 8 ans, on pense qu'il est devenu beaucoup plus grand que moi plus tard. Et, enfin, il aurait pu devenir beaucoup plus grand que moi. Il lui a pas laissé la chance de le devenir. Donc on a on a cette image de ces Homo erectus africains qui sont grands, qui ressemblent, je dis pas à des Maasai, mais enfin en tout cas qui ont des proportions corporelles quand même très modernes. Alors à Dmanisi, on a trouvé dans ces cavités deux séries d'os post-crâniens. Alors, vous voyez, c'est très incomplet, mais compte tenu de la disposition spatiale de ces os, on pense qu'en fait, ce sont des squelettes partiels, dispersés, de deux individus. Hein, un adulte et puis un adolescent qui n'a pas complètement terminé sa croissance. Et au point de vue de la taille, on est très très loin de notre histoire d'Homo erectus de Nariokotome qui fait 1m80 ou 1m90. Hein. Voilà ici le fémur adulte découvert à Dmanisi comparé à des fémurs d'hommes actuels, donc de différentes populations géographiquement diverses. Vous voyez qu'il est plus petit que le plus petit qu'on ait pu trouver, hein, d'homme actuel. Le tibia, pareil. Donc là, on parle d'un individu qui fait à peu près 1m50 de taille et une cinquantaine de kilos de masse corporelle. Et à nouveau, j'insiste sur le fait que dans le fond, il faut se garder d'avoir un stéréotype de ce qu'était un Homo erectus, parce que pendant 1,5 million d'années d'évolution sur une ère continentale absolument gigantesque, bah, il est très probable qu'il y avait des grands Homo erectus, des petits Homo erectus, peut-être même des Homo erectus pygmées. On en trouvera un jour. On a peut-être même trouvé d'ailleurs en fait à Flores. On en reparlera. Donc peut-être une beaucoup plus grande diversité que ce à quoi on est préparé. Et si on met de côté la taille, ce qui est très intéressant dans ces fossiles de Dman ici, c'est que du point de vue des proportions corporelles, on a, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'os, mais on peut regarder les proportions du tibia sur le fémur ou de l'humérus sur le fémur, des choses comme ça. Et quand on calcule ce genre de ratio, vous voyez que, voilà ici ces étoiles qui représentent l'adulte de Dman ici, eh bien on tombe au milieu de ce nuage de Z. Alors ces Z, ce sont des hommes actuels. Et vous voyez qu'on est très très loin de ce qu'on observe, par exemple, chez des grands singes comme gorilles, orang-outans ou chimpanzés. Et donc, au passage, je vous montre ici WT15000, c'est-à-dire ce fameux adolescent de Dario Cotomé, enfin adolescent de 8 ans. Hein. Et vous voyez que ces hommes de Dman ici ont des proportions corporelles qui sont très très proches, identiques aux proportions corporelles des hommes actuels. Des gens de petite taille, mais avec des proportions très très proches des nôtres. L'anatomie des os de la jambe, du pied, montre des structures anatomiques qui sont très très proches de celles qu'on va observer chez des hommes actuels. Il y a des petites différences, évidemment, si on va chercher des détails dans l'articulation entre le tibia et l'astragale, on va trouver des choses un peu différentes, mais c'est très très humain. Plus de différences dans l'articulation de l'épaule. Et là, bon, des choses plus primitives. Alors, est-ce que ce sont des caractères simplement hérités d'un ancêtre et qui ne sont pas encore perdus et qui n'ont pas forcément une grande valeur fonctionnelle, ou est-ce que c'est lié à une mécanique de l'épaule différente? En tout cas, j'insiste là-dessus parce que, dans le fond, ça nous ramène, vous vous souvenez, à ces fémurs que Dubois avait trouvés avec sa calotte crânienne de Trinil. Et dans le fond, il y a eu souvent des doutes sur le caractère erectus de ces fémurs. Hein, parce qu'il y a eu le fameux fémur qu'on montre toujours, celui qui a des exostoses, qui est pathologique. Mais il y en a eu 3 ou 4 autres qui ont été trouvés, plus fragmentaires. Et dans le fond, toutes les études qui ont été menées sur ces fémurs, en essayant de les dater, en tout cas de regarder leur composition chimique pour voir si c'était vraiment fossile, en regardant leur anatomie, bien dans le fond, on n'a jamais pu démontrer qu'ils n'étaient pas des fémurs d'Homo erectus. Et donc, disons que pour l'instant, eh bien, on peut dire que ces gens-là nous ressemblent beaucoup. Et dans le fond, c'est assez logique, puisque c'est avec ces Homo erectus qu'on voit apparaître une adaptation qui est une adaptation très importante des hommes dans leur comportement, notamment de prédation. C'est l'adaptation à la course de longue distance, à l'endurance, avec pas seulement des adaptations anatomiques, hein, mais des adaptations physiologiques, des adaptations, des mutations même qu'on a pu identifier, qui dans le fond nous prédisposent, alors peut-être pas vous et moi, énormément, mais qui nous prédispose à courir des marathons, des super-marathons, des choses comme ça. Et donc, avec tout un dispositif, en particulier de sudation, pour refroidir le corps. Donc, ça, toutes ces choses-là sont déjà en place, et on les observe, dans le fond, on les retrouve chez ces petits Homo erectus de Dman ici. Alors, déplaçons-nous maintenant vers l'est pour voir quelles sont les formes anciennes que l'on a. On a déjà évoqué ce gisement, je crois, la dernière fois, qui est le gisement de Longupo en Chine. Alors, je vous dis tout de suite que c'est un gisement assez problématique. Vous voyez, il se trouve ici sur la carte, au sud de la ville de Xi'an, en Chine, ancienne capitale, dans une zone où on trouve cette fameuse faune à panda et à stégodon, vous savez, cette faune forestière avec des orangs-outans, des choses comme ça. Il y a des chercheurs comme Kyo Chun qui pensent qu'il n'y a pas d'Homo erectus en fait, dans ce genre d'environnement et qu'on les trouve plutôt au nord et au sud de cette zone-là. Et toujours est-il qu'à Longupo, on a un site paléontologique qui est très riche, qui livre énormément de restes de faune, mais dans un dépôt, vous voyez, où il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de galets. Et donc, dans ces galets, certains ont reconnu des industries fabriquées, en particulier notre collègue, le professeur Boeda de Nanterre, a travaillé dans ce site et lui est convaincu qu'il y a une industrie à Longupo. Alors, je vous dis tout de suite que, comme souvent c'est le cas pour ces industries très, très anciennes, il y a de la contestation, il y a de la discussion. Et surtout, Longupo, on en a beaucoup parlé parce que avec ces outillages très, très frustes, on a découvert un petit bout de mandibule avec une prémolaire et une première molaire qui, au départ, ont été identifiées comme des dents de hominines, hein, des dents alors d'un représentant du genre Homo très ancien. Alors, le problème de Longupo, c'est que les dates qui ont été proposées pour le site sont des dates très anciennes, sont des dates qui, pour certaines, remontent au-delà de 2 millions d'années. Et donc, on a cru, à un moment donné, tenir avec Longupo quelque chose qui n'était pas un erectus, qui était quelque chose de plus ancien et qui témoignait donc de la présence d'une espèce plus primitive en Extrême-Orient. Alors, il y a beaucoup de problèmes avec Longupo. Le premier problème, c'est que, dans le fond, graduellement, le statut de dominine de ces dents s'est vu dégradé et je pense qu'aujourd'hui, plus grand monde ne croit que ces dents sont des dents dominines. Elles ont des caractères, en particulier l'usure des dents. C'est un mode d'usure qu'on trouve plutôt chez des orangs-outans, des grands singes. Et le fait est que, sur ce qui reste de leur morphologie, il est assez difficile de faire la différence entre des dents du genre Homo et des dents de quelque chose qui n'est peut-être pas un orang-outan, mais qui pourrait être... en Chine, il y a un genre fossile de primates qu'on appelle Lufengopithecus, qui a existé pendant le Miocène, c'est-à-dire avant 5 millions d'années, et qui est apparenté à l'orang-outan. Vous vous souvenez que je vous ai aussi parlé la dernière fois du Gigantopithèque. Donc on a en Asie, on a tout un buissonnement de formes qui sont liées à l'orang-outan, des orang-outans primitifs, des orang-outans peut-être de très très grande taille avec le Gigantopithèque, des choses qui seraient apparentées à des descendants de Lufengopithecus. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on voit aujourd'hui ces dents de Longupo. Et alors pour la datation, là aussi il y a pas mal de problèmes. Il y a eu plusieurs chercheurs qui ont essayé de dater le site, y compris des chercheurs français d'ailleurs. Et certaines dates vont jusqu'à presque 2,5 millions d'années. Le problème avec ces dates, c'est que elles sont entachées d'une très grande incertitude, c'est-à-dire quand on regarde, quand on vous dit 2 millions, après si c'est 2 millions plus ou moins 2 ou 300 000 ans, évidemment, ça change tout. Et puis aussi, ces dates ne sont pas toujours cohérentes avec la stratigraphie, c'est-à-dire qu'on a des dates plus anciennes dans des niveaux plus hauts que d'autres niveaux qui donnent des dates plus récentes. Donc ça aussi, c'est un petit peu embêtant. Et comme on dit pudiquement, l'histoire sédimentaire du site a l'air assez compliquée. Bon. Donc, on garde Longupo sous le coude pour l'instant, à cause de l'industrie possible, mais il y a des problèmes avec les dates. Et en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'homme à Longupo. Vous verrez tout à l'heure qu'on a des moyens maintenant d'aller regarder non pas juste la morphologie externe, mais à l'intérieur des structures dentaires, des tissus dentaires, pour essayer de reconnaître des choses qui sont humaines ou pas, enfin du genre homo ou pas. Pour mémoire, je vous rappelle ces deux dents découvertes dans de Yunnan, ces deux incisives qui auraient peut-être 1,7 million d'années, mais vous vous souvenez qu'il y a des dates complètement différentes qui ont été aussi proposées. Alors, voilà peut-être le plus vieux fossile du genre homo découvert en Chine. C'est une calotte crânienne associée à quelques éléments de la face qui vient d'un site qui s'appelle Gondwanglin, près de Lanxian. Alors, c'est un spécimen très spectaculaire que j'ai eu l'occasion de voir il y a très longtemps lors d'un voyage en Chine. Vous voyez, quand on regarde de face cette calotte crânienne, on a un bourrelet susorbitaire absolument énorme, fantastique, un des plus importants que j'ai jamais vu sur un hominine fossile. Voilà, c'est un fossile qui est en très très mauvais état, hein, on peut le dire. Il a un très très gros bourrelet susorbitaire, il a une très très forte constriction, vous savez, ce resserrement en arrière du bourrelet susorbitaire. Et l'âge de ce fossile, au départ, qui était donné pour être un peu plus qu'un million d'années, ce qui est déjà pas mal, hein. Alors depuis, a été révisé plusieurs fois par plusieurs équipes chinoises. Donc il y a eu une date à 1,2 million ans. Et puis, encore plus récemment, une date à 1,6 million d'années. Je vous donne tout ça avec beaucoup de précautions. Il est possible que ce soit quelque chose de très très ancien. Dans les formes aussi anciennes, voilà des fossiles. Là, on approche on est un peu en dessous du million d'années. Deux crânes qui viennent d'un site qui s'appelle Yunxian dans la province de Hubei. Alors, c'est très certainement des Homo erectus, leur âge autour de 950 000 ans, quelque chose comme ça. Et vous voyez, eux aussi n'ont pas eu de chance quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils sont très, très, très déformés. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer virtuellement de les reconstituer. Amélie Vialet, qui travaillait à l'IPH, s'y était attelée. Mais bon, ça reste très, 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 très délicat. Donc, on a... pour clore avec la Chine, on a quelques, pas beaucoup dans le fond, hein, c'est essentiellement Gondwangling et puis ces pièces de Lungxian, des choses qui sont au million d'années ou juste au-delà du million d'années. Et puis maintenant, c'est à Java, en Indonésie, qu'on va avoir des choses assez anciennes. Alors je vous rappelle ce crâne de bébé d'Homo erectus qui est le seul que l'on connaisse, qui a été découvert par von Königswald dans ce site de Mojokerto. La date, c'est probablement autour de 1,6 million d'années. Donc là, on est dans des choses quand même très, très, très anciennes. Et ce crâne a été beaucoup discuté. Pourquoi ? Parce que c'est autour de lui que s'est emballé tout un débat sur le mode de croissance des Homo erectus comparé à celui des hommes actuels. En particulier, quand on regarde le rapport entre la taille du cerveau de ce bébé qui devait avoir entre 6 mois et peut-être un an et demi, quelque chose comme ça, disons autour d'un an, et un cerveau adulte d'Homo erectus, eh bien, on a une proportion beaucoup plus élevée que ce que l'on trouve chez des hommes actuels, c'est-à-dire un développement du cerveau en proportion plus rapide et qui évoque un peu ce qu'on trouve chez des grands singes, ou en tout cas quelque chose d'intermédiaire. Alors, il y a eu beaucoup de discussions, des collègues américains ne sont pas d'accord, on dit non, il grandit comme nous, etc. Je ne veux pas entrer dans tous les débats méthodologique autour de cette discussion-là, mais sachez quand même qu'on a, avec ce fossile, quelque chose de très précieux pour, comment dire, mesurer, dans le fond, le développement cérébral de ces Homo erectus, et c'est quelque chose d'important parce que, dans le fond, notre complexité cognitive, elle n'est pas liée seulement à, j'allais dire, ce qu'on a dans la tête, mais aussi la façon et le temps que l'on a mis à le construire. Et le développement cérébral de l'homme actuel, c'est un développement très, très long, et avec beaucoup de réorganisations qui se produisent en interaction avec l'environnement. Et donc, toute la question, quand on s'intéresse à des formes anciennes, c'est de savoir si on a le même caractère chez des formes comme les Homo erectus. Vous vous rappelez que mon enfant de Nariokotome, qui est grand comme le professeur Hublin, eh bien, il a 8 ans de développement. Hein. Et donc, on a l'impression que, quand on regarde son stade de développement dentaire, squelettique, etc., que c'est quelqu'un dont la croissance était peut-être terminée complètement vers 12 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Et vous voyez que tout ce faisceau d'arguments, ça pointe vers quelque chose qui est assez différent de ce que l'on connaît chez l'homme actuel, avec des conséquences sur l'organisation sociale, le développement cognitif et même la psychologie, les relations entre les individus. Autre fossile ancien que l'on a à Java, eh bien des fossiles qui sont trouvés sous ce qu'on appelle le Grenzbank. Ça, c'est la stratigraphie du dôme de Saint-Girons, ce site qui est, enfin, cette région plutôt, hein, qui a produit un grand nombre de fossiles à Java. Vous vous souvenez qu'on a au début à Java des dépôts, cette formation de Pukangan, qui sont des dépôts un peu de mangroves, de zones marécageuses. L'île de Java n'est pas complètement constituée telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a des ponts terrestres qui la relient au continent, mais on a aussi des faunes qui sont un peu des faunes insulaires. On a déjà des hominines qui sont là avant 1 million d'années. Alors, le problème, c'est que dans cette formation de Pukangan, plus on s'enfonce dans le temps et moins on trouve de traces humaines et on ne sait pas très bien quand ça commence. En tout cas, c'est peu probable que ça commence avant 1,6 million d'années. On a des formes très robustes, comme ce spécimen. Ça, c'est un arrière-crâne. Vous voyez le torus occipital transverse très, très puissant, découvert par von Koenigswald avec un palais qui lui est associé. Et alors, dans ces formes anciennes de Java, on a, je vous ai dit, ce sont des formes très très robustes, et on a découvert des fossiles qui sont même tellement robustes qu'on s'est demandé s'il était bien raisonnable de les considérer comme des Homo erectus. Donc vous voyez, j'arrive à mon histoire d'Homo erectus qui n'en sont peut-être pas. Et en particulier à Saint-Girons, il y a deux mandibules qui ont été découvertes, qui ont beaucoup intrigué les paléanthropologues. Et donc, en 1942, Weidenreich et von Koenigswald, toujours les mêmes, ont décidé de créer un nouveau genre et une nouvelle espèce pour ce bout de mandibule-là, qui est le spécimen de Saint-Girons 6. Et ils ont appelé ça Meganthropus paleo-javanicus. Alors, Meganthropus, hein, même avec des rudiments de grec, on voyait bien, hein, où est-ce qu'on va. Donc, c'est un géant, c'est quelque chose de très grand. Pourquoi ? Eh bien, parce que voilà, ce fragment de mandibule, comparé à une mandibule d'Homo erectus et une mandibule d'orang-outan, vous voyez que c'est une mandibule très, très, très grande et épaisse en taille du corps, de l'os, hein, et puis avec des dents aussi très, très importantes. En 1942, on avait déjà découvert en Afrique des australopithèques, et dans les années qui vont suivre la création de ce terme de Meganthropus paleo-javanicus, il y a plusieurs auteurs, et ça a continué encore très, très récemment, hein, qui vont dire, mais dans le fond, est-ce qu'on n'a pas en Indonésie des paranthropes, des australopithèques robustes, comme ceux d'Afrique du Sud ou ceux d'Afrique de l'Est, qui ont vécu à côté des Homo erectus? Alors, c'est une discussion qui s'est poursuivie. Quand j'étais jeune chercheur, un jour, je me suis candidaté pour un poste et j'étais interviewé par par mes pairs. Et à brûle-pourpoint, au milieu de cette interview, on m'a demandé « Que pensez-vous du méganthrope ?» Rétrospectivement, je réalise qu'on m'a posé cette question pour ne pas que j'aie ce poste, parce que c'était vraiment une question empoisonnée, parce que personne ne sait et ne savait ce qu'était ce fameux méganthrope. En tout cas, il y a des gens qui se sont beaucoup intéressés à la question. Et donc, on a, dans ces niveaux anciens de sang girant, eh bien, on a attribué un certain nombre de spécimens très, très robustes à ce méganthrope sans trop savoir ce que c'était. En particulier, il y a un chercheur américain qui s'appelle Donald Tyler qui s'est voué au méganthrope, si je peux dire, et qui, dans les fossiles les plus anciens de sang girant, a reconnu des formes très robustes qui pensent être du méganthrope. Vous voyez que ce sont des fossiles découverts relativement récemment. Hein, vous voyez, dans la numérotation des fossiles, sang girant 27, sang girant 31, donc on est loin de sang girant 2, 3, 4. Hein. Donc ça, c'est, j'allais dire, ce sont des choses qui ont été découvertes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, bon, sang girant 27, qu'est-ce que vous voulez en dire hein. Là, il y a des dents. Derrière, c'est un crâne. Un des arguments, à part les caractères dentaires, un des arguments, c'est que sur ces fossiles, on aurait au sommet du crâne une crête sagittale, hein, c'est-à-dire des muscles temporaux qui se rejoignent pour former une crête, un peu comme ce qu'on a chez les grands singes. En tout cas, presque une crête. Et ça, ça a été un argument qui a été avancé pour les associer au méganthrope. Alors, moi, quand je vois cet occipital, là, de l'arrière, ça ressemble quand même furieusement à un occipital d'Homo erectus avec son torus occipital transverse. J'allais dire que la majorité des paléanthropologues ont eu tendance, graduellement, à considérer qu'en fait, ces méganthropes, c'était dans la variation des Homo erectus, c'était des formes très robustes d'Homo erectus, et puis c'est tout. Et que c'était des formes qui étaient trop fragmentaires pour qu'on puisse créer une autre espèce. Alors, récemment, il y a quelques mois, un chercheur, enfin, pas tout seul, un chercheur français et un chercheur allemand ont repris l'étude du type du méganthrope, ce fameux sang girant 6. Et puis aussi, on regardait d'autres spécimens qui avaient été attribués à d'autres espèces. Et en particulier, ce qu'ils ont regardé, c'est l'anatomie dentaire. Alors, tout à l'heure, à propos de Longupo, je vous ai dit, la morphologie externe, c'est pas évident de faire toujours la différence entre un orang-outan, et puis femelle, et puis un homme avec des grosses dents. Enfin, en tout cas, un Homo erectus. Alors, on peut aller regarder les structures internes. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'utiliser des techniques d'imagerie pour peler l'émail de la couronne dentaire en gardant que la dentine qui est en dessous. Et donc, on a une surface qui est une surface avec une topographie très compliquée. Et on peut utiliser des méthodes mathématiques, de la morphométrie 3D, pour analyser de façon très très précise les caractères de cette topographie et calculer des distances de forme entre différents fossiles. Donc Zanoli s'est attelé à ça avec, comme je vous disais, un collègue de Francfort qui lui s'intéresse plutôt à l'usure dentaire. Et donc, ce que vous voyez là, ne vous affolez pas, hein, c'est une analyse en composantes principales, donc c'est en gros une distribution sur une surface d'individus, et la distance qui les sépare, c'est, dans le fond, une distance de forme. Donc plus ils sont séparés, plus ils sont différents dans leur forme. Ce que vous avez ici à droite, ce sont bien des hommes modernes, en gris, des Homo erectus, les Homo erectus sont les carrés verts, il y a des néandertaliens, il y a un peu de tout. Et ce que vous avez de l'autre côté ici, eh bien, ce sont des grands singes. Alors, en bleu, des orangs-outans. Et puis, en jaune, ici, nos fameux Civapithèques, Loufengopithèques, etc., c'est-à-dire ces formes d'orang-outans fossiles très anciennes. Et vous voyez que quand on essaie de distribuer sur un diagramme comme ça nos méganthropes, ils tombent ici, ils tombent du côté des grands singes, ils ne tombent pas du côté des Homo erectus. Et donc l'argument de ces chercheurs, ça a été de dire, dans le fond, ces méganthropes qu'on a peut-être par faiblesse et par lassitude, finit par se dire qu'ils étaient probablement juste des Homo erectus un peu plus gros que les autres, eh bien, quand on regarde en détail la topographie, l'usure dentaire, la forme de la cavité pulpaire, la forme des racines, etc., je vous passe tout un tas d'études qui ont été menées dans ce travail, eh bien, il semble plutôt qu'ils représentent une forme de grand singe qui a existé à Java dans le Pléistocène, qui est quelque chose qui est différent des orangs-outans, mais proche des orangs-outans. Et donc voilà qu'on est reparti avec un méganthrope qui, à nouveau, si je peux dire, a repris du poil de la bête. Alors quelque chose de très intéressant dans l'étude de ces chercheurs, c'est que donc Zanoli et Coulmar, je suis un des co-auteurs aussi, mais j'allais dire, j'ai surtout fourni des données en fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont aussi repris l'étude. Souvenez ces dents que Dubois avait trouvées à Trinil avec sa calotte crânienne et puis son fémur. Eh bien, ces dents-là, quand on les... Alors là, il s'agit de molaires supérieures cette fois-ci. Quand on les distribue sur une analyse en composantes principales comme celle-là, eh bien, là encore, on a des dents qui tombent dans la distribution des orangs-outans. Et donc, vous voyez qu'on a, j'allais dire, un peu facilement, parce qu'on avait envie de trouver des restes d'hominines, on a un peu facilement incorporé dans notre corpus de fossiles d'Homo erectus des dents de grands singes qui sont parfois tout simplement des orangs-outans et parfois d'autres espèces de grands singes un peu mystérieuses qu'on ne connaît pas vraiment. Alors pour terminer, je voudrais vous montrer quand même les formes les plus récentes. Alors, je ne vais pas vous remontrer les caractères des hommes de Zougoudienne. Vous les connaissez par cœur maintenant. Simplement, je voudrais insister sur le fait que ce site de Zougoudienne, donc là, on est en deçà du million d'années, très très clairement, il est quand même situé assez au nord par rapport à la distribution des autres Homo erectus. Donc vous voyez, Zougoudienne, c'est là, c'est pas très loin de Pékin. Et donc, une des questions qui se posent, c'est dans le fond celui du peuplement de l'Asie par ces Homo erectus. Alors évidemment, il y a une voie sud qui est la voie certainement employée par la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont à la Java. Mais il y a une vraie question qui se pose entre une possibilité qu'au nord de l'Himalaya, il y ait un peuplement d'Homo erectus aussi. Cette seconde voie qu'on va constamment envisager quand il sera question en particulier des Homo sapiens. Et évidemment, la question, c'est est-ce que les hommes de Zougoudienne, ils sont arrivés par le nord ou est-ce qu'ils sont arrivés par le sud avec des échanges nord-sud à travers la Chine ? Une autre question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder jusqu'à présent, mais qui est celui de la complexité comportementale, le site de Zougoudienne a été souvent cité comme un site dans lequel on avait des traces de feu contrôlées par les Homo erectus. Donc, il y a 4 ou 500 000 ans, les Homo erectus de Zougoudienne auraient été parmi les premiers à utiliser le feu, ce qui, d'une certaine façon, fait sens compte tenu de leur position géographique relativement septentrionale. Alors, je dois dire, c'est une question qui est très, très débattue. En 98, il y a un groupe de chercheurs israéliens qui est retourné à Zougoudienne, qui a fait une petite fouille dans ces niveaux qu'on croyait être des niveaux de cendres, et dans le fond, qui a montré que ce n'était pas de la cendre. C'était un mélange de sédiments très fins, d'argile, de choses comme ça, mais certainement pas de la cendre. Alors, il y a quelques eaux brûlées, Mais donc c'est une preuve, je dirais, indirecte de l'utilisation du feu azougoudian. Eux concluent qu'il n'y a pas de feu, enfin en tout cas qu'il n'y a pas de foyer organisé azougoudian. Alors évidemment, il y a des chercheurs chinois qui, là derrière, sont repassés pour reprendre l'étude, refaire des essais et dire que non, il y a quand même du feu azougoudian. Donc c'est une question qui reste ouverte. Je vous mentionne quelques autres fossiles relativement récents d'Homo erectus en Chine. On n'a pas le temps de voir. Il y a beaucoup de fossiles quand même en Chine et puis en Indonésie. Je vous cite un Homo erectus qui est à peu près du même âge que celui de Zougoudian, dans la fourchette haute, disons autour de 600 000 par là. Sont deux crânes partiels, enfin, celui-là c'est le plus complet, qui viennent de Nanjing. Nanjing c'est Nankin, une ville tristement célèbre, qui se trouve dans l'est de la Chine. Autre fossile qui ressemble beaucoup aux fossiles de Zougoudian, des fossiles qui viennent d'un site qui s'appelle Hexian. On est toujours à l'ouest de Shanghai. Alors là, on est plutôt dans la fourchette basse des dates de Zougoudian. Ça pourrait être les derniers Homo erectus en Chine, entre 400 000 et 300 000, quelque chose comme ça. Et puis, voilà, ça c'est ce crâne de Hexian. Vous voyez que la morphologie change au cours du temps. On a des occipitaux qui sont un peu plus arrondis, on a l'os temporal ici a tendance à avoir une forme plus élevée, tout ça c'est lié au développement cérébral. D'ailleurs, les endocrânes de ces fossiles, les plus récents de Zougoudian ou celui de Hexian, on voit quelques changements dans la forme des lobes frontaux en particulier. Et puis donc, en Indonésie, on a au-dessus de ce Grenzbank qui est à peu près à 900 000, 1 million d'années, on a des fossiles assez nombreux et on n'a pas le temps de les regarder en détail, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer encore un beau crâne. Donc il s'agit du crâne d'Homo erectus asiatique, en tout cas indonésien, le plus spectaculaire qu'on connaisse, Sangiran 15, c'est un crâne de grande taille, Sangiran 17. C'est un des seuls pour lequel on ait une partie de la face qui soit conservée sur... Là, ce n'est pas une reconstitution, c'est vraiment la face de cet individu. On a aussi, évidemment, les fossiles de Sangiran 2, Trinil 2, dont on a déjà parlé. Et du point de vue du comportement, dans ces Homo erectus, disons, qui ont moins de 800 000 ans, puisqu'on est au-dessus du Grenzbank, on a une complexité comportementale qui se développe. Alors, l'industrie lithique n'est pas très spectaculaire. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les fossiles chinois. Mais on a des choses quand même très remarquables. Pour ceux qui ont suivi mon cours l'année dernière sur les ressources alimentaires, je vous rappelle qu'à Trinil, donc dans le site où Dubois a découvert sa calotte crânienne, eh bien, on a identifié toute une collection de mollusques qui sont des lamellibranches d'assez grande taille. Alors c'est Dubois qui a ramassé tout ça, qui a ramené ça aux Pays-Bas, et il y a des milliers d'objets qui se trouvent dans le musée Naturalis à Leiden. Et donc c'est en explorant les collections du musée Naturalis qu'on a repéré ces collections de coquillages qui portent toutes une perforation au même endroit, qui est l'endroit où se trouve le muscle qui permet la fermeture de ce bivalve. Et donc, apparemment, avec une dent de requin, on peut aller faire un trou dans la coquille à cet endroit-là, et la coquille s'ouvre et on mange ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous me direz, bon, ça n'a rien d'extraordinaire, sauf que sur une de ces coquilles, on a repéré un... Alors, bon, c'est un zigzag, c'est pas la Vénus de Milo, mais quelque chose qui a été considéré comme une forme d'expression symbolique, quelque chose comme ça. C'est peut-être... Alors, c'est très difficile à interpréter ce genre de choses. Hein. C'est peut-être un jeu, peut-être un geste machinal, j'en sais rien. Enfin bref, il y a une gravure intentionnelle, un zigzag sur une de ces coquilles. Alors, il y a encore des choses encore plus récentes à Java. Vous vous souvenez, dans cette coupe que je vous ai montré le Grenzbank, et je vous ai dit, en dessous, c'est au-delà du million d'années, la formation de Pukangan. Et au-dessus, il y a une formation qui s'appelle la formation de Kabou, et c'est dans cette formation de Kabou qu'on a Trinil 2, Sangiran 2, Sangiran 17, tous ces beaux fossiles d'Homo erectus. Et au-dessus, il y a une autre formation qui s'appelle la formation de Notopuro, disons, qui date des derniers 200 000 ans. Hein. Donc on approche du Pléistocène supérieur. Et donc on a à Java des fossiles qui sont plus ou moins contemporains de cette période-là. Alors je dis plus ou moins parce que malheureusement, ils sont assez mal datés. Et c'est dans cette zone chronologique qu'on trouve cette fameuse série de Ngandong dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc je vous rappelle, une série de calottes crâniennes très très bien conservées, très complètes, d'Homo erectus tardifs, avec des grands cerveaux, enfin des grands cerveaux, disons, des capacités crâniennes au-delà de 1200 millilitres. Hein, donc on est très 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 loin des formes les plus anciennes, mais qui conservent une très grande robustesse et toutes ces superstructures, ces torus, ces bourrelets dont je vous parlais, c'est pratiquement sur ces formes-là qu'on les voit le mieux exprimées. Donc on a des choses qui sont à la fois très tardives, très, j'allais dire, évoluées dans le sens qu'ils développent ces cerveaux beaucoup plus grands que les formes anciennes, mais qui en même temps exagèrent ces caractères qui étaient les caractères qui définissaient les Homo erectus asiatiques et qu'on ne trouve pas chez les autres, en Afrique par exemple. Alors ces formes de Ngandong, elles ont joué un rôle très important dans le fameux modèle multirégional qui voulait lier l'apparition de notre espèce à un phénomène local dans chaque région du monde. Et donc, Weidenreich, mais d'autres l'ont suivi, ont essayé de comparer ces formes à des aborigènes australiens en particulier, en essayant de tirer argument de la robustesse du crâne de certains aborigènes australiens pour les lier à ces homo. L'idée, c'était en fait les aborigènes australiens sont les descendants des Homo erectus de Java. Hein. Je vous le fais court, mais c'était ça l'idée. Hein. Alors, bon, c'est sur le plan anatomique, c'est assez discutable, et beaucoup l'ont discuté, mais surtout, disons qu'il y a beaucoup d'arguments génétiques qui ont complètement fait voler en éclats cette idée-là. Bah, pourquoi ? Parce que les aborigènes australiens actuels, ils ont un ancêtre commun avec vous et moi, qui est beaucoup plus récent que ces Homo erectus de Java, et donc ils ne peuvent pas en être les descendants. On a à Java d'autres fossiles un peu du même genre. Pour mémoire, je vous montre ces formes très récentes, Sangmu Machan, Gawi. On est toujours dans le Pléistocène supérieur. Et vous voyez, ce que je vous ai raconté à propos de ces derniers Homo erectus chinois, eh bien, c'est vrai, c'est encore plus marqué. Des crânes beaucoup plus arrondis, vous voyez, des os frontaux qui sont plus aplatis avec un torus usorbitaire très, très marqué à l'avant, des occipitaux moins anguleux, des écailles du temporal plus élevées. Enfin, on a un registre fossile extrêmement riche à Java. C'est vraiment étonnant, dans un coin, si j'allais dire, perdu du monde des Homo erectus, on a tout cet enregistrement fossile. Alors, pour terminer, revenons aux questions qui se posaient tout à l'heure, en essayant d'y apporter une réponse. Alors, pour l'instant, on n'a aucun fossile humain découvert, pas seulement en Asie, mais en dehors d'Afrique, qui serait plus vieux que 1,780 000 ans. C'est-à-dire, c'est l'âge des. Enfin, 1,1 million d'années, 780 000, c'est-à-dire l'âge des fossiles de Dmanisi. Bon, Longupo, vous avez vu, c'est quand même... en tout cas, c'est peut-être ancien, mais c'est pas humain. Les autres, aucun n'atteint ces âges-là, vraiment. Donc on n'a pas, pour l'instant, d'autres espèces qu'Homo erectus, anciennes, hein, présentes dans le Pléistocène inférieur d'Asie, qu'on puisse attribuer à une autre espèce du genre Homo, comme Homo habilis ou une autre forme. Surtout, ce qui est apparu au cours des dernières années, c'est que, dans le fond, on s'était énormément trompé en attribuant au genre Homo surtout des races dentaires. Donc on a assez facilement attribué des races d'orang-outan ou d'autres grands singes à Homo erectus. Et en particulier, j'avais mentionné l'autre fois des sites vietnamiens où on a décrit des dents isolées d'Homo erectus. Plus on les regarde et moins on y croit. Hein. Donc on pense que ce sont pour la plupart des grands singes. Alors soit des orang-outans, soit d'autres grands primates proches des orang-outans. Et on aimerait bien avoir des fossiles plus complets. Donc peut-être que le méganthrope, c'est à mettre au rang de ces formes. On a une différence entre les fossiles indonésiens et les fossiles chinois. On a des petites différences anatomiques. Mais en même temps, c'est assez difficile de parler d'une différenciation régionale qui se maintient sur la très longue durée. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, en Chine, on a un fossile qui a Homo erectus et les gens qui étudient les dents disent « Ah oui, les dents sont un peu différentes de celles des Homo erectus de Zhoogoodian, par exemple. Elles ressemblent plus à des Homo erectus africains. Hein. » Donc, est-ce que ça représente des populations vraiment différentes ou est-ce que ça représente... enfin, des lignées différentes, ou est-ce que ça ne représente pas plutôt des variations individuelles ou des variations d'une population à l'autre, de façon un peu stochastique au sein de tous ces Homo erectus. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que du point de vue du développement cérébral, on a un parallélisme entre... Dans le fond, il se passe partout un peu la même chose, et on verra que c'est vrai aussi... pour la lignée qui va mener aux Denisoviens, aux Néandertaliens, à nous hein, aussi, eh bien, on a une augmentation de la taille du cerveau et donc ça entraîne des caractères qui sont un peu toujours les mêmes partout en termes de structure de la voûte crânienne et même proportion des os crâniens individuellement. Il semble quand même, alors, je vous ai... abreuvé de tous mes doutes sur les dates qu'on peut produire hein, pour tous ces fossiles. Mais quand même, disons qu'en Chine, on a l'impression qu'après 400-300 000 ans, il n'y a plus d'Homo erectus. Alors qu'en Indonésie, on a quand même pour ces formes de Ngandon, de Sambu Machan, de Ngawi, etc., on a des dates qu'on peut toujours discuter, mais il y a quand même des dates qui vont dans le Pléistocène supérieur, c'est-à-dire après 130 000. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va poser la question la semaine prochaine de savoir, nos Denisoviens, ben dans le fond, où est-ce qu'ils vivaient, où est-ce qu'ils étaient, avec quels autres hominines ils ont pu rencontrer. Et peut-être qu'on a une situation qui oppose le continent avec la péninsule de Sunda, hein, avec bien le développement de cette lignée dénisovienne à partir de 400 000 ans sur une partie de l'Asie de l'Extrême-Orient, alors que dans des coins un peu périphériques, eh bien, longtemps, des Homo erectus vont survivre avant d'être remplacés par les Homo sapiens. Donc une histoire un peu différente. En Asie continentale, avec, si je peux dire, trois couches de populations différentes, des Homo erectus, les Denisoviens, puis les hommes modernes, donc des remplacements successifs. Peut-être qu'en Indonésie, on a une longue persistance de ces lignées d'Homo erectus hein, qui développent plus de complexité, plus de cerveau aussi, on l'a vu. Et puis, la fin de l'histoire, c'est simplement quand les Homo sapiens arrivent. Voilà. On continue la semaine prochaine. Au revoir.